Bonjour et bienvenue au podcast Samedi de lire. Aujourd'hui, on est bien confortablement assis dans la bibliothèque où on fait nos traditionnels enregistrements pour le podcast. Et avant de vous présenter l'avis de lecture que Marie-Claire nous présente aujourd'hui, prends quelques instants pour
je vous présente. Alors, on va parler aujourd'hui de Sauveur et Fils. Toutes les saisons de 1 à 6, la série complète de Marie-Aude Muraille.
Alors, dans le fond, tu ne focuses pas uniquement sur le premier tome.
Non, je vous vends la série. Achetez les 6 en même temps.
Parce que tu auras ta raison que tu nous expliqueras pourquoi, oui. Là, aujourd'hui, tu nous présentes cette série-là. Mais juste avant, on a réalisé, toi et moi, Marie-Claire, oui. Que depuis le début de l'année, on est toutes les deux participantes au défi de MH la lectrice. Son défi de lecture s'appelle?
MH Tapal.
Et comme je le disais, moi, personnellement, je suis une novice dans l'univers de ce genre de défi-là. Mais je suis quand même heureuse et très satisfaite de me lancer ce défi-là. Parce que c'est beaucoup de mots défi. Fait que j'essayais de chercher un autre mot, tu sais, comme un synonyme, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, je voulais commencer l'année avec une relation différente avec ma bibliothèque. Et je pense que
Ça fonctionne, hein?
Absolument. Je vais l'essayer. De toute manière, je pense que ça commence bien. Fait que...
Tu as déjà 3 livres de lus?
Tout à fait. Nevermore pour la catégorie influencée par...
Par les réseaux sociaux.
Par les réseaux sociaux. Moi! Oui, c'est ça! C'est le raton réviseur! Pour ce qui est d'une sortie de zone de confort, j'ai choisi Exercice de style, qui est un livre écrit par un poète français. Et mon dernier, c'est la catégorie illustration, oui. Qui est Sapiens, le okay. Tome 1.
Ben, c'est parfait, c'est des belles lectures. De mon côté, j'en ai terminé 2 et je suis en train de lire mon 3e. Alors, j'ai lu Max dans la catégorie « Livre avec un seul mot ».
Cadeau offert,
et puis qui m'a vraiment pratiquement choquée quand je l'ai reçu. Puis j'ai dit « Ben voyons donc que je vais lire ça ». Et pourtant, j'ai passé un excellent moment de lecture. Ensuite, j'ai pleuré parce que c'est un livre qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, le deuxième, c'est « Wave ». Un roman graphique que j'ai adoré, de qui j'attendais absolument rien, puis qui m'a amené dans des... C'est un livre sur le deuil, puis qui fait des parallèles avec le surf, puis l'invention du surf, puis tout ça. Puis c'est un livre très étonnant. Vraiment, j'ai adoré. Puis là, je suis en train de lire... comment ça s'appelle, donc?
Je peux pas t'aider, je suis désolée.
T'as vu? des étoiles, juste de flûte. Et ma fille serait fâchée parce que c'est elle qui m'a incité à lire ce livre-là. Quand elle l'a lu à l'école, elle a dit « Maman, faut que tu lis ça, c'est vraiment trop bon. Bougez pas, je le trouve. » De l'importance du bon usage des étoiles. Et ce livre-là,
c'est quoi, c'est quoi le titre?
« Du bon usage des étoiles » de Dominique Fortier. Okay. Et je m'excuse parce que c'est un livre qui est très bien écrit. C'est un livre que j'ai reçu des très bons commentaires. Puis ma fille l'a adoré. Puis je ne sais pas pourquoi il ne me rentre pas dans la tête. Quand je l'aurai terminé, ça va devenir
plus simple.
Quelque chose de différent. Exactement. Là, je suis en train de le lire. Mais j'ai d'autres lectures en même temps, en parallèle. Fait que des fois, je paraisse un peu, là. Parce qu'il était dans la catégorie, celui-là, de livres qui me sort de ma zone de confort.
OK. Il y a quand même... c'est ça.
C'est une obstination. C'est vraiment juste une obstination. Okay. C'est vraiment juste ça. C'est vraiment juste de dire, je ne l'ai pas choisi, celui-là. Quand je l'aurai terminé, je vous dirai si j'avais raison.
Moi, j'ai l'impression, tout dépendant quand est-ce que tu vas l'avoir terminé. Ici, tu as l'habitude de nous présenter tes coups de cœur, oui. Tes 4 étoiles et plus.
Les livres que je veux vous amener à aller chercher, que je peux en tout cas vous dire, selon moi, vous allez passer un bon moment en lecture. C'est sûr que c'est toujours... ça se laisse toujours place à l'interprétation, celui-là, mais...
On verra, lui. S'il se glissera à travers le podcast.
À suivre.
Mais là, aujourd'hui, on est ensemble pour l'avis de lecture de Sauveur et Fils. Mais juste avant le détail, que je te cède la parole pour l'avis de lecture détaillé et complet, je vous invite tous, chers auditeurs, à partager, aimer, abonner et commenter nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez vous joindre au podcast Littérature Samedi de lire. Pour moi, c'est tout simplement Véro et
la raton liseur sur Instagram.
Juste avant d'aller plus loin, je me permets de dire que depuis le début de l'année 2023, bien les podcasts sont maintenant disponibles sur ma chaîne YouTube, soit tout simplement Véro. Alors, pour ceux qui préfèrent ce modèle-là, bien, on n'est pas en personne, c'est l'audio. Peut-être qu'un jour, on sera courageuse et on sortira nous-mêmes de notre zone et de confort. Notre
palette de maquillage pour pouvoir filmer le dimanche matin avec les poches en dessous des yeux.
Mais là, Marie-Claire, c'est à toi.
OK. Bon, donc moi, je vous présente la série Sauveur et fils que je procrastine depuis longtemps parce que j'en ai parlé dans quelques podcasts précédents puis je vous disais, un jour, je vais vous présenter ça. Parce que la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est que la saison 7 sort prochainement ce printemps en France. Donc, nous, on devrait la voir au Québec à l'automne. Mais par contre, c'est facile maintenant de commander en France. Sincèrement, là, je veux pas empêcher les gens d'acheter dans les librairies québécoises parce que c'est ce que j'encourage beaucoup. Mais il existe un site internet où on peut commander de la France et ça arrive rapidement au Québec et puis il n'y a pas de frais de port et manutention puis on paye le livre le même prix qu'on le paierait ici. Donc des fois quand vous êtes pressé d'avoir des sorties littéraires françaises, ben c'est un bon moyen de combler notre attente.
Oui, puis je pense que ça ne va pas diminuer l'achat chez les libraires
indépendants. Non, moi je suis quand même vraiment non, chez La Liberté quand ils me voient arriver, ils savent que j'ai une bonne commande. Moi j'achète plus au Québec que j'achète en France, sauf que de cette façon-là, quand même, des fois, bon. Ceci étant dit, Sauveur et fils, c'est l'histoire principalement d'un psychologue pour enfants. C'est un psychologue qui est absolument génial. Alors, c'est un grand bonhomme noir qui est originaire de la Martinique, si je ne me trompe pas. Et puis, moi, dans ma tête, je l'imagine vraiment comme étant Omar Sy. Donc, si jamais ils en font une série télé, il va falloir qu'ils...
on sait déjà, les gens de la prod, faut
choisir cet acteur, sinon quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. Mais c'est parce que c'est un grand bonhomme très chaleureux qui invite à la confidence, puis qui invite à la douceur, puis il est vraiment extraordinaire. Donc, pourquoi on appelle Sauveur et fils? C'est pas parce qu'il travaille avec son fils, non, mais il a un petit garçon qui est à l'école primaire qui s'appelle Lazare. Et puis, quand l'histoire commence, on a ces deux personnages. Alors, c'est le père, c'est le fils qui vivent dans une maison. Dans cette maison, il y a un cabinet de consultation. Et puis, ils font leurs petites affaires. Son papa, Sauveur, travaille beaucoup. Il prend son nom très au sérieux pour lui. Sauver le plus de vies possible, c'est super important. Donc, il est un peu absent pour son propre fils. On parle de cordonnier mal chaussé. Bon, avec sa famille, comme c'est une petite famille, un papa et un garçon, c'est un peu bancal, si on veut, au début. Sauveur essaie de trouver l'équilibre, mais il trouve ça un petit peu difficile. Il va avoir besoin d'aide extérieure. L'aide va pouvoir venir, entre autres, de son fils, qui va se faire un ami, un très bon ami à l'école. Cet ami-là a une grande sœur, une maman qui est divorcée. Bon, qu'est-ce qui va se passer entre Sauveur et cette maman-là? Ça, il faut le suivre au fil des saisons. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a une romance? Est-ce qu'il n'y en a pas? Bon, mais c'est quand même des gens qui vont faire partie de l'entourage de la famille. Ensuite de ça, Sauveur va se lier d'amitié avec d'anciens patients ou des patients qui sont devenus adolescents. Un, entre autres, qui a besoin un peu plus que les autres de suivi, il n'y a plus de famille, tout ça. Bon, Sauveur va l'accueillir chez lui pour un bout de temps, fait que ça va changer la dynamique familiale. Il va y avoir aussi, intrusion dans la famille, si on veut, une espèce de vieux monsieur clochard, là, qui va... je me rappelle plus exactement comment ils entrent en contact avec lui, mais il va faire partie, lui aussi, des gens qui sont, qui se greffent au noyau familial, donc... On commence une saison 1 avec une toute petite famille et de saison en saison, la famille grossit. Ils vont adopter des hamsters. Alors, en couverture, c'est très drôle parce que ce sont des cochons d'Inde. Une magnifique couverture, soit dit en passant. Chaque tome, chaque saison nous présente un ou plusieurs cochons d'Inde dans différentes situations. Ici, on a un joli cochon d'Inde dans un petit bain bleu.
Absolument.
Belle couverture. La couverture attrape. Catch the eye, attrape l'œil. C'est vraiment magnifique. Et ça s'en va en s'embellissant de saison en saison. mais que dire de plus, sinon que c'est une série qui est immensément humaine. C'est une série qui est très réaliste. On a un sauveur qui a vécu un drame aussi précédent toute cette histoire-là, au moment de la naissance de Lazare. Dans la saison 2 ou 3, on va creuser ça un peu plus profondément pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Est-ce que les psychologues peuvent avoir besoin d'aide extérieure? La réponse est oui.
Ça reste des êtres humains, là.
Ça reste des êtres humains. Il a beau être extraordinaire, puis bon, il y a un autre volet aussi, là, je vous parle de ça, je vous parle beaucoup de Sauveur et de sa famille. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette série-là, qui se lit comme on pourrait écouter un téléroman, c'est que chaque chapitre commence avec une journée au bureau pour Sauveur. Alors aujourd'hui, qui est-ce que j'ai à l'agenda? Ce garçon, cette fille, blablabla. Et puis là, ben, nous, on finit par connaître ses patients. On rentre dans le bureau de consultation avec lui. On suit les séances et puis ces personnages-là reviennent. Fait qu'on suit l'évolution, la régression. Où est-ce que ça nous amène? Il y a parfois des personnages qui décident de plus revenir dans le bureau. Puis là, on se dit, oh mon Dieu, on le verra plus celui-là. Bon, puis bon, ils peuvent revenir deux tombes plus tard avec des problèmes différents. Sauveur va aussi suivre les familles. Dans le fond, il suit des enfants. Lui, c'est un psychologue pour enfants, mais parfois, il faut qu'il fasse un peu de coaching auprès des parents. Donc, ce sont des familles qu'on va suivre en parallèle. Fait que ça fait un univers qui est très, très riche et varié. Ça fait plusieurs personnages à aimer ou à ne pas aimer, mais qu'on est tous curieux de savoir, mais où est-ce que ça s'en va, cette histoire-là? Chacun des tomes a sa propre fin. Donc, chacun des tomes pourrait être, si on veut, la fin de la série. Mais on reste toujours curieux, puis on se dit « Ouais, mais ce personnage-là, qu'est-ce qui va se passer avec? Ouais, mais cette histoire-là, mettons que celle-là, c'est fini, c'est correct, mais on est vraiment avide de poursuivre, de suivre ces personnages-là. » Donc, c'est pour ça qu'à toutes les fois qu'il y a un nouveau tome qui sort, c'est la joie, parce que là, on va retrouver vraiment un univers très riche en émotions, en humanité, puis en problème psychologique.
Absolument. Puis ce que je vois à travers ça, c'est que il y a quelque chose qui s'est construit. Ça a toujours été pas dans le trauma qui grandissait, mais l'attachement se développe probablement d'un livre à l'autre, d'une saison à l'autre. Là, ça doit être vraiment...
C'est très organique la façon dont ça c'est ça, tu mets le doigt dessus en disant que oui, l'attachement va devenir plus intense entre eux, et puis ça va devenir quelque chose de palpable. Et puis, tu sais, moi, Marie-Aude Muraille, c'est une auteure que j'aime vraiment beaucoup. Elle a les mots pour parler aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux jeunes adultes. Elle a les mots pour exprimer vraiment les émotions des adolescents. Elle sait comment s'adresser à eux, puis elle n'a pas peur d'aborder des sujets sociaux compliqués, le racisme, l'homosexualité, la scarification.
Oui, parce que c'est un livre qui est écrit, le premier tome est en 2016. On n'est pas des années 70, non. Là où il y a des choses qu'on se sent moins à l'aise, peut-être, comme... auteur d'aborder ou.
Mais il y a quand même des sujets, tu vois, qui font encore grincer des dents, l'avortement, tout ça. Bon, là, elle n'en parle pas clairement dans ces livres-là, mais je veux dire, elle aborde des sujets de violence psychologique, la boulimie, l'anorexie. Fait qu'elle n'a pas peur de mettre ces problèmes-là en avant. Puis dans tous ses romans, là je parle de Sauveur et Fils, mais dans plusieurs de ses romans, elle n'aura pas peur de mettre ses personnages dans des situations comme ça. Puis bon, en même temps, comment on va chercher de l'aide pour se sortir de ça? Est-ce que tous les personnages peuvent s'en sortir indemnes? Non, parfois, il y en a qui s'en sortent pas indemnes. Il y en a pour qui la fin est moins drôle, mais il y en a pour qui la fin est belle. Il y en a pour qui on ne voit juste pas la fin. Elle fait juste nous présenter un bout d'histoire, puis nous, on part avec ça. C'est facile de faire des parallèles avec des gens qu'on connaît aussi.
Et j'ai envie de dire que... lorsqu'on aborde cette lecture-là, probablement qu'il ne faut pas être dans un désir de s'évader.
C'est presque du voyeurisme, si on veut. Ouais. En fait, je dis voyeurisme, puis c'est pas exactement ça. Plutôt, c'est de l'empathie. Je devrais plutôt dire ça. C'est plus positif. C'est qu'on est tellement empathique envers les personnages qu'on a envie de savoir quels sont leurs malheurs, puis comment est-ce qu'on peut trouver une solution pour, s'il y en a une, pour les aider. Mais il y a une curiosité, c'est vrai. Fait qu'il y a peut-être un peu de voyeurisme à travers ça aussi, mais tu sais, on s'incruste vraiment dans l'intimité de ces gens-là. Fait que nous, ben, on est comme un petit oiseau dans le coin de la pièce, puis on regarde ça aller, puis on trouve ça extraordinaire.
Mais c'est pas... si je lis ce livre-là, ça risque peut-être pas de me faire sortir de ma quotidienneté.
Ça dépend comment tu l'abordes.
OK.
Ouais, parce que, tu sais, regarder ou voir... C'est sûr que là, t'es pas dans un univers fantastique, t'es pas dans un univers de science-fiction, là, t'es vraiment dans un...
C'est quelque chose qui est très, très C'est comme tu disais, là, il est possible de voir voisins, amis, frères, sœurs, collègues de travail dans le livre. Là.
Exactement.
Tu peux changer les noms.
Ben, si tu as des exemples comme ça, oui. Sinon, ben, tu sais, je veux dire, je pense qu'on a chacun écouté assez de tes livres de série pour être capable de se faire un petit.
Absolument.
Mais en même temps, tu sais, c'est son univers. Je veux dire, on va finir par être vraiment, je te le dis, là, attaché à certains personnages, puis se dire vraiment, celui-là, j'aimerais qu'à la fin, sa finale à lui ou à elle soit positive. Là. T'sais, on les prend par la main, les personnages, puis on les suit jusqu'au bout. Mm-hmm. On les voit grandir, puis 6 saisons, c'est 6 ans. Là. Oui, en même temps, Lazare vieillit, il devient adolescent, puis là, c'est ça exactement, la dynamique familiale, comment ça se passe, puis là, avec autant de monde dans la maison, puis parfois, il y a la police qui est impliquée, ils ne sont pas juste dans la cuisine à manger des pâtes, là. Non, il se passe des choses.
Alors, mais je pense que j'ai probablement tordu, dans le fond, j'ai mal appréhendé le livre en me disant que ça sortait pas vraiment, ça me ramenait dans ma quotidienneté. Non, je pense qu'il y a possibilité. C'est oui, le plus je
t'écoute. D'aller ailleurs.
Mais le ailleurs, il est visible dans mon entourage. Oui. Fait que peut-être le risque de pas copier, mais de transposer. Mais il faut juste accepter que c'est pas justement notre réalité.
Non. Ben, déjà, ça se passe en France, ça se passe pas au Québec.
Bon, voilà.
Fait que t'es ailleurs.
C'est terminé.
T'es en Europe. C'est voilà, c'est fait. T'es déjà ailleurs. C'est magnifique. Moi, en tout cas, très personnellement, là, j'ai dévoré le premier. J'ai dévoré chacun des tombes, là, des saisons, avec beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Pour moi, cette série-là, c'est un gros coup de cœur. Il n'y a rien vraiment qui a accroché. Il n'y a pas de moment où je me suis dit, bof, non, ça, cette avenue-là, je l'aime moins, fait que je vais arrêter de le lire. Fait que pour moi, personnellement, je suis bon public aussi, mais j'aime l'écriture de Marion de Muraille. Puis cette série, il y a tout un fan club aussi. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui adorent Sauveur et Fils. Là. Fait que je pense que c'est peut-être aussi fait bombarder de courriels et de messages pour dire on veut un tome 7.
Mais voilà. Là, Marie-Claire, ce que je comprends, c'est que ça fait le tour de la présentation.
Oui.
Et c'est les mots. Dans le fond, là, est-ce qu'il y a une idée, une phrase avec laquelle tu résumerais pour faire le marketing, pour amener les gens à dire, là, à l'aube de la sortie du septième tome, là, de la saison 7, là, nous amener à faire l'achat ou la location des 6 premiers?
Ben, en fait, c'est une série à dévorer. C'est une série émouvante. C'est une petite pépite d'humanité.
Wow! Et c'est sur ces belles paroles que se termine notre podcast. Merci, Marie-Claire!
Ça fait plaisir.
Vraiment, un petit mot de la fin ou on termine ça?
Ben, le petit mot de la fin, là, c'est que parfois, si vous voyez une couverture vraiment mignonne en librairie, là, ça vaut la peine de regarder parce que c'est vraiment à cause de ça que j'ai acheté le livre. Une petite couverture mignonne, des fois.
Ça change la vie.
Ça change la vie.
Absolument. Puis pour vrai, je relance pas le sujet, là, mais le petit cochon d'Inde, il est tout à fait mignon.
Il est tellement cute.
Bien, merci Marie-Claire pour ce partage-là. Honnêtement, je sais pas si je vais me lancer cette année, mais
ça a piqué ta curiosité.
Oui, tout à fait. J'aime le côté parce que moi, je le dirais sans gêne, je suis une voyeuse. Moi, je m'assierais très bien dans un bureau psychologue
ou de psychiatre.
Absolument, tout à fait. Moi, j'ai ce désir-là de comprendre l'humain, de voir où toute sa tête. Ah oh, ben non, le chien, tu me coupes pas la parole. Désolée pour ceux qui ont entendu les bruits. Mais tout ça pour dire que, j'aime ça, cette relation-là. Puis si je pouvais, j'aurais ça juste pour voir l'être humain dans toutes ses facettes. Alors, c'est pas impossible qu'il y ait une prise supplémentaire.
Mais tant mieux.
Alors, en attendant la sortie du 7e tome, je vous souhaite à tous de passer de merveilleux moments. Et je vous invite une autre fois à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Abonnez-vous, partagez, commentez et aimez. Pour mon côté, c'est Véronique, c'est tout simplement Véro.
Et Lara Tonlizard sur Instagram.
Oui, et n'hésitez pas à vous abonner et suivre le podcast Littérature, ça me dit de lire. Et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bonne journée!